Merci beaucoup. Et donc là, on passe à la présentation de Nicolas Laher, qui enseigne le français. Il a fait une thèse sur les nanars. Il nous dira le titre s'il a envie. Et c'est aussi un membre de l'équipe PIND, presque un cadre. La preuve, c'est lui qui a porté les crevettes aujourd'hui à midi, alors qu'il a peur des algues.
C'est pas moi, c'est Brigitte qui porte. Ouais. Bonsoir. Voilà. Bonsoir public. Ça va? Alors, je viens de regarder un petit détail. J'ai fait l'effort de mettre des captures d'écran de films dans mon PowerPoint et j'ai l'impression qu'en termes de de luminosité, toutes mes images sont sous-exposées. C'est surtout sur les images pour l'instant. Ça va. Donc on va voir si ça marche. Mais j'espère que sur les dernières, vous allez pouvoir voir des choses parce qu'il y a un petit film mexicain dont vous me direz des nouvelles. Ça n'a pas forcément été très très simple de réfléchir sur cette question, en tout cas du punk au cinéma, parce que forcément c'est une histoire très 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 confuse. Parce que quand on parle du punk, déjà, y a beaucoup... dans le milieu de la musique, mais au cinéma, il y en a aussi des abus de langage sur le punk. On parle du mouvement musical punk au cinéma, ou tout simplement de la silhouette du punk qu'on va mettre devant l'écran. Le punk, il y avait le bon ou le mauvais chasseur, et il y a aussi la question de se poser si le punk, quand on le met à l'écran, c'est une figure amie ou ennemie. Moi, ce que je pourrais dire en introduction, c'est qu'il apparaît autant comme une promesse d'évasion, une promesse de danger ou de sauvagerie, donc petite dédicace à OTH. Et plus simplement, le punk, est-ce qu'on ne le réduit pas, en tout cas au cinéma, à son simple aspect de repoussoir esthétique? Alors que quand on parle de punk au cinéma, effectivement, on est en train de réinterpréter un phénomène plus complexe, qu'on parle du son punk, qu'on parle de la posture punk ou des décors punk. Tous ces trois aspects vont être adapté, reformulé. Et moi, ma question dans cette première intervention sur le punk au cinéma, ce sera de demander, quand on insère le punk dans les récits filmiques, qu'est-ce qu'il apporte comme caution au récit, et à quel point sa figure est-elle ou pas déformée. J'aborderai cette question selon trois aspects. Le premier étant les modalités de quelle façon le punk est-il présenté à l'écran? Sachant que je suis parti sur la base d'un corpus de films, je suis parti sur la base des films que j'avais vus, et j'en avais une trentaine, quarantaine, cinquantaine, et plus je préparais cette intervention, plus je me rendais compte que j'en oubliais, j'en rajoutais, etc., etc. Donc je vais vous présenter une série d'analyses sur ce corpus-là de films qui, vraiment, là, pour l'instant, on en est à 50, 60, 70. J'ai essayé de constituer ce corpus en me posant plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que le titre du film mentionne le nom punk? Ensuite, est-ce que le contenu du film présente des lieux en particulier ou des décors évocateurs du punk? Est-ce que le film cite des morceaux, que ce soit par extrait ou autre, ou tout simplement, est-ce que le film met en avant des figures, des artefacts, faisant référence à cette période, par exemple, des acteurs, des punks eux-mêmes. Et donc, premier élément de modalité de présence du punk, tout simplement, donc, à travers le titre, le punk nommé. Là, encore une fois, j'ai majoritairement retenu des récits où le punk apparaît effectivement. Donc ça peut être, par exemple, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais un film des années 90 qui s'appelle SLC Punk, qui en fait suit des tribus, donc film américain, 90, avec des acteurs qui tournaient dans Scream, etc., etc., qui suit en fait les tribulations d'un jeune punk qui essaye de s'insérer dans la société, donc ses galères, etc., etc. Il y a aussi des films plutôt documentaires, donc ça se voit effectivement pas très bien. Donc comme le documentaire Punk Attitude, donc réalisé par Don Letts, acteur éminent du punk londonien, qui contient effectivement des punks, parce que comme c'est un documentaire, il va faire appel à des témoignages, des sources orales, et ce qui est intéressant aussi dans ces titres, je parlais de titres de films, ce serait intéressant aussi de réfléchir sur le rapport entre images et nom des films pour se demander aussi, ici c'est, ça se voit pas très bien, mais ce qui est figuré comme punk, c'est la posture du doigt d'honneur qui affronte directement la personne qui va aller voir ce film-là. On pourra peut-être se dire, mais je n'ai pas encore trouvé d'exemple, se poser des questions des faux amis ou des titres un peu plus racoleurs, mais peut-être que dans la troisième partie, il y a quelques films qui pourront entrer dans cet aspect-là. Deuxième aspect de la présence punk, eh bien, la présence punk au niveau des décors. Alors, par quel point d'entrée le punk apparaît ? Moi, je suis rentré par la thématique urbaine, comme passage obligé. Et dans ces cas-là, le milieu punk, c'est un décor urbain qui respire le plus souvent, selon les réalisateurs, la saleté, la crasse, et plus généralement donc des endroits qu'on qualifiera en déshérence, donc que ce soit un milieu urbain. Par exemple, je pense à certains films, les tout premiers films de Jarmusch, qui sont tournés dans les années 80, à l'époque où il y a vraiment des quartiers entiers de New York qui sont quand même dans un état déplorable. Des films tout simplement tourner dans des squats ou des films tournés avec des acteurs costumés ou en tout cas qui sont punk et non pas homme naturel. Faut aussi peut-être se demander quand on parle du décor punk, c'est que le film punk, moi je considère pas forcément ça comme une catégorie générée qu'au même titre que le western, que les peplums, etc. Et donc on peut trouver des figures punk ou des décors punk dans des films qui appartiennent à un tout autre genre, comme ça ne se voit effectivement pas du tout. Donc on va avoir ce problème-là. Donc ça, c'est la séquence introductive du film de zombies, Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, que les amateurs de cinéma bis connaissent peut-être, parce qu'il commence donc par en fait une séquence dans un cimetière, mais surtout une séquence avec une jolie punkette qui se déshabille et qui a marqué la plupart des personnes qui ont vu ce film. Je ne me souviens plus si dans la distribution à la fin le personnage est marqué comme punky ou etc. Mais de par son esthétique, elle a des barésies, elle a une coupe rouge pétante dressée, elle a une robe imprimée léopard. Elle se signale comme punk. Et donc par là même dans un film comme Le Retour des Morts Vivants, elle apporte aussi à sa façon une forme d'exotisme au récit. Troisième modalité de présence, donc la présence punk à travers les acteurs. Et quand je parle d'acteurs, je parle autant du comédien professionnel qui va devoir jouer un rôle de punk que les punks qui jouent leur propre rôle eux-mêmes. Et donc, de la sorte, l'acteur punk va apporter avec lui des codes vestimentaires et capillaires qu'il va, dans certains cas, selon les desiderata du réalisateur, va plus ou moins travestir. Quand je pense acteur punk, je pense autant le film punk qui date de 4-5 ans, et ils avaient tourné des scènes à la miroiterie avec comme caution punk les membres du groupe, les jeunes membres du groupe Breakout qui jouent littéralement leur propre rôle. Et plus généralement, il y a dans cette question des gens qui ne sont pas punk, mais qui vont devoir jouer des figures de punk, ben, se pose la question de ce qu'on va leur demander de jouer. Et on va peut-être souvent leur demander de jouer une figure de rebelle, plus ou moins décadente. Il y a aussi certains cas où les punks, en fait, là, on va faire appel à de vrais punks pour compléter un arrière-plan et figurer un environnement punk crédible. On peut autant, à des degrés vraiment très divers, penser donc à Mona et moi, ou même si Johnny Thunder se définissait comme un rocker, où Johnny Thunder joue son propre rôle. Et il y a aussi la présence donc de Elno, de Lucrat Milk, Virginie Noire, Négresse Verte, etc. Ou tout simplement dans une scène de La Valse des Pantins de Martin Scorsese, il y a une scène qui se passe à Times Square, et le tournage se passait à peu près à l'époque où les Clash ont fait leurs dix jours de concert au Bond, et où Scorsese a demandé ponctuellement à Simonon et à Stromer de venir tourner là. À ce stade, donc voilà, et encore une fois, donc on ne reconnaît pas aussi sur cette image. Donc Joe Strummer aussi se pose aussi la question, quand on a des acteurs qui ont été punk, qui ont été dans des groupes punk, ben on se pose la question de est-ce que ce film est punk. Dans le cas de Jarmusch, qui a une connexion très forte avec la scène new-yorkaise et qui se plaît dans la plupart de ses films, soit à donner des rôles à Iggy Pop, soit à le citer d'une façon ou d'une autre, par exemple dans son dernier, dans Patterson, quand Patterson est dans son bar, à un moment donné, ben il regarde des coupures de presse qui parlent des concerts des Stooges, donc se pose la question du degré de punkitude des films. D'autant plus que je n'ai pas encore parlé donc de la forme des films qui introduisent le punk. Est-ce qu'on parle du documentaire punk ? Est-ce qu'on parle des fictions punk ? Et est-ce qu'on parle des biopics punk, donc Sid and Nancy avec Gary Oldman ? Il y a encore des cas que je qualifierais de hors catégorie, comme La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll avec Michael McLaren, qui raconte sa vision des Sex Pistols, se posant en plus ou moins raison en démiurge du punk. On arrive donc de la sorte à la deuxième partie. On a présenté les modalités de présence du punk dans les films. Il faut se demander... on les justifie, on les présente d'une façon dramatique, comment les présente-t-on dans ce récit, sachant que, à ce niveau-là de la discussion, est-ce que le film punk, c'est un film qui comprend des punks ? Mais là, il y a déjà un biais. Est-ce que c'est un film avec des intentions punk ? On en avait parlé la semaine dernière avec Christophe Baker, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ou est-ce que c'est un film dans des décors punk, sachant que tout peut se cumulé. Donc, premier aspect, pourquoi on va insérer ces punks dans la narration ? Il y a une première volonté, celle de recréer une époque, donc que ce soit par des références musicales ou par l'apport à des sources orales. Donc, ça, c'est un film sorti récemment. Donc, How to Talk to Girls at Parties, par exemple, commence, la situation initiale du film commence dans le Londres des années 70 et le film se charge de nous le rappeler car la première partie du film, on passe quasiment en intégrale la chanson New Rose des Damned, donc pour bien nous rappeler qu'on est en 76 et que le punk à Londres, ça commence comme ça. Le paradoxe, donc on voit bien que ce sont des jeunes qui ont essayé d'avoir la tiraille. Ce qui est intéressant, c'est que ce film commence dans cet univers punk, mais il dévie très vite vers un autre genre, le film de science-fiction, un peu New Age, etc. Sur cette image, en fait, ce serait intéressant de faire dialoguer ce chant-là avec le contre-chant du personnage auquel ils sont en train de parler, qui est une sorte d'extraterrestre qui vient d'une planète un peu mystique. Sachant que, quand je parle aussi de recréer une époque, je vais pas parler du cas McLaren, mais il y aurait vraiment ce serait vraiment intéressant de revenir là-dessus. Deuxième justification narrative, le punk, on l'introduit en tant que repoussoir. En tant que repoussoir esthétique, en tant que symbole du marginal, sale, pas forcément en bonne santé, et en tant que repoussoir esthétique de quelqu'un qui a peut-être essayé de singer l'attirail punk jusqu'au mauvais goût. Voilà, jusqu'à arborer quelques bandanas à base de tête de mort, etc., etc. Dans certains films, ce punk, c'est aussi un déclassé auquel on va rappeler la marche à suivre, et quitte à lui tirer dessus, donc comme dans le retour de l'inspecteur Harry, quand il dit écoute-moi, punk, là, on est deux dans la situation, il y a une personne qui est du bon côté du flingue, il y a toi, et maintenant casse-toi et fais-moi plaisir, mec. Et on comprend que l'inspecteur Harry, il est du bon côté, et le punk, il est destiné à se faire rouler dessus. Dans certains cas aussi, cette représentation du punk mériterait d'être étudiée en parallèle de la représentation de ceux qui vont représenter les anti-punks dans ces films, qu'on les qualifie de ultra-normés, qu'on les qualifie de traditionnalistes, ou qu'on les qualifie de personnages extrêmement chiants qui vont charger de remettre ce monde décadent dans la droite ligne, donc en exterminant les punks à coups de fusil et de battes de baseball. Troisième aspect, et qui est le corollaire de la volonté de recréer une époque, la volonté de donner une crédibilité à notre film. J'ai évoqué en première partie la nécessité, dans certains cas, de tourner sur place. Donc, comme dans le film Punk, où je me souviens, j'étais là un des jours où le film avait été tourné à la Miroiterie, et c'était quand même, c'était pas la même chose d'aller au concert comme d'habitude, et d'aller à un concert avec des gens qui maniaient quand même du matériel assez cher, etc. Et avec le service de sécurité qui faisait quand même une sorte de cordon tout autour pour dire attention quand même, on est peut-être à la miroiterie, mais on a du sacré matos qui coûte plusieurs milliers d'euros. Il y a aussi la crédibilité passe par des cas lorsque les punks jouent leur propre rôle, ou presque, donc avec le cas de Johnny Thunder et d'Elno, etc., etc. Il y a des cas aussi mixtes, et à ce niveau-là de ma démonstration, je suis obligé d'interroger la nécessité de mettre ou pas des scènes de concert dans ces films, que ce soit des scènes de concert tournées pour l'occasion, donc par exemple dans Summer of Sam de Spike Lee, donc qui raconte un récit qui se passe dans les années 70 parce qu'il fait référence Summer of Sam, c'est un tueur en série qui sévissait dans New York à l'époque, etc. Et il y a des scènes de concert avec le groupe d'Adrian Brody, et ces scènes de concert sont tournées au CBGB's. Et Adrian Brody, d'ailleurs, pour le film est censé donc se passer vers 76-78. Adrian Brody arbore d'ailleurs une splendide crête Spike qui n'aurait pas dépareillé sur Whitey des Exploited ou sur les chanteurs des Casualties. Peut-être il y a déjà une forme d'anachronisme. Donc ça, c'est ce cas-là. Et il y a aussi le cas où lorsqu'on va insérer de véritables séquences de concerts au film, comme à travers le cas, ça se voit pas du tout toujours, de Rude Boy, donc film de Jack Hazan, qui est mi-documentaire, mi-narration, qui suit en fait la pérégrination d'un Rude Boy, Ray Gunch, qui va devenir Roddy des Clash. Et dans cette séquence, c'est une des dernières séquences filmées du film, il y a un montage dialogue entre la figure de Ray Gunch, qui est complètement paumée dans le public, et Strummer, qui est au sommet même de son cabotinage, mais avec, dans le bon sens du terme, scénique, qui chante Safe European Home et qui dit ses paroles Rudy comes, Rudy go, no one knows what a rude boy know, et on voit, et c'est à mettre en parallèle avec la tête de Ray Gunch qui est complètement partie ailleurs. Selon les cas, on peut donc parler d'éclairage ou de détournement en fonction de la figure du punk présentée devant la caméra. Il y a déjà un paradoxe à ce niveau-là de ma démonstration, c'est que, on l'a dit, on n'arrête pas de le dire depuis le début de l'ANR, puisqu'il paraît que je suis une figure de l'ANR, c'est qu'il n'y a pas une façon de représenter le punk, et pourtant, malgré les différentes façons de représenter le punk, cette figure n'en reste pas moins signifiante. Et dans la dernière partie, dans la limite du temps qui me reste, je me demanderai effectivement comment interpréter ce passage à l'acte punk, sachant que l'interprétation que je vais faire est conditionnée à la fois par la plasticité des récits et par la plasticité du phénomène punk. Il peut y avoir certains films qui parlent du punk 77, certains qui parlent du punk 82, etc., etc. Première interprétation possible, on joue qu'est-ce que ça veut dire jouer le punk dans ces films-là? Effectivement, première possibilité, jouer la victime dans l'inspecteur Harry. Être le symbole d'un quartier d'une déliquescence programmée. Là, je pense autant à des films comme... alors, c'est plus des séquences punk. Je pense autant à des films comme Frères de Sang, Frank Henenlotter, où la première partie du film, c'est quasiment un plan séquence sur le Deuce de la 42e Avenue, ou Last Action Hero, où on voit toutes ces salles double, triple bills, mal fréquentées. Deuxième aspect, donc jouer le punk, je passe sur la figure de Thunder. Deuxième aspect, la possibilité de singer le punk. Dans ces films, le punk va devenir ridicule, car ça va être soit un méchant mineur, soit un méchant qui n'a plus de capacité de nuisance, ou qu'on va représenter d'une façon caricaturale jusqu'à la réinterprétation. Donc, comme par exemple dans le film Vendredi 13, chapitre 8, l'inutile retour, aussi sous-titré Jason à Manhattan, sauf qu'il n'y a que cette séquence-là qui se passe à Manhattan, où Jason, donc figure du boogeyman avec Michael Myers et autres, qui à ce niveau-là de la série est devenu un mort-vivant, et il se retrouve en fait à Times Square pour tuer des gens parce que c'est Jason, et il se fait alpaguer par ces quatre punks qui font espèce de ringard et tout, et qu'est-ce que tu nous fais chier, et Jason n'a même pas à se battre avec ces punks là, il a juste à enlever son masque de hockey, parce que comme je vous l'ai dit à ce niveau là c'est un mort vivant, donc il a juste à enlever son masque de hockey, à faire bouh, et les punks se cassent, les punks sont juste des guignols dans ce film là de la même façon dans le film Intrepidos Punk, oui. Donc de Franco Guerra, où les personnages du film sont présentés comme des punks, mais au niveau de l'esthétique, c'est une sorte de crossover glam, bubblegum, moustache. Il manque juste peut-être un catcheur de lucha libre en arrière-plan, mais c'est vraiment dommage parce que il y a beaucoup de couleurs sur cette image et beaucoup de moustaches aussi. Et donc voilà, se poserait la question aussi de l'implication ou pas du costumier dans ces films punk. Troisième aspect, de singer le punk à détruire le punk, on arrive à des cas de récits où l'abus de mise en scène et de justification vient peut-être brouiller la réelle image du punk. Et peut-être dans certains de ces films, quand on parle de détruire le punk, eh bien, le punk devient alors un frère d'armes, une de toutes les minorités destinées à se prendre des coups par des gens représentatifs de la norme, donc comme Charles Bronson qui, dans les 5 volets du Justicier dans la nuit, a eu l'occasion de tirer dans le dos de noirs, de minorités de toutes sortes, et aussi de punks. Alors effectivement, il avait une excuse dans le premier, ils avaient tué, je crois, sa femme et sa fille, mais dans les autres, ça devient quasiment ultra caricatural, ultra sécuritaire, et voilà. Et on se doute bien que Charles Bronson, il n'est pas du côté des punks, il est vraiment du côté des gens bien sous tout rapport. En conclusion, le punk, en premier, est une figure faite pour être malmenée. Que cette figure reprenne les codes esthétiques d'origine ou qu'elle se pose en antagoniste du film. Il peut être alors représenté autant de façon grand-guignolesque ou comme un épouvantail de toutes sortes pour le spectateur. Ensuite, de par sa présence dans le film, le punk va amener avec lui toute une série de codes, de symboles et d'atmosphères, que ce soit des références musicales et vestimentaires, une certaine aura, peut-on dire, faite de dangers et de transgressions. Certaines fois, le punk n'est qu'un alibi, une caricature. D'autres fois, il apporte de la crédibilité. Pour autant, ça montre qu'il est une silhouette comme une autre du 7e art ou du film d'exploitation, et que comme d'autres silhouettes avec lui, il est autant victime de réinterprétation que de fabrication abusive. Continuerait-il encore à faire peur ? Je vous remercie. Libre à vous de chercher les références dans ces remerciements. Merci à vous.
Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, qui a des questions ?
Ah, oui. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Christophe.
Merci, c'était très bien, déjà. Je pensais à un film sur la naissance du CBGB qui était en 2013. Alors, je l'ai noté, donc c'est pour ça que je me souviens que c'est de Randall Miller. Ce qui était intéressant, bon déjà c'est un mauvais film.
Avec Ron d'Harry Potter dans le rôle, dans je ne sais plus quel rôle.
C'est possible.
Le rouquin d'Harry Potter, oui.
Et plutôt peut-être Juno Temple même.
Aussi.
Qui devait être une référence à son père, Julian Temple, qui avait filmé les Sex Pistols. Ce qui est marrant dans ce film, quand on parle de la représentation du punk, c'est qu'il y a toute la création du club par Eli Crystal, à partir du country, bluegrass, blues club. Et évidemment, il y a les figures mythiques, on va dire, du punk new-yorkais, côte est, c'est-à-dire Patti Smith, David Byrne, etc. Et ça se finit de manière assez étonnante sur le parangon de cette histoire du CBGB dans ce film. C'est justement la création de Police par Sting, qui est quand même assez drôle, en fait, puisque c'est un film où on a enlevé toutes les histoires de drogue, plus ou moins, les histoires de sexe. Je pense qu'il y en avait une ou deux au CBGB. Et ça arrive justement à l'apogée d'un groupe qui va devenir la représentation d'un courant du punk commercial. Voilà, c'était tout.
Je pense que ce que j'ai essayé de dire, c'est que quand on parle du punk dans ces films, le but des films, c'est pas forcément de faire une resituation historique ou autre, et donc on peut être amené à brasser plein de références. Et dans le cas de, je l'avais mis dans le corpus, dans le cas de, avec cette mention de Police, peut-être qu'il y a en tout cas nous, on y verra peut-être une ironie indirecte. Et j'ai pas parlé aussi de maisons qui ont une attitude punk sans forcément pour autant mentionner les punks. J'aurais pu beaucoup parler parce que la référence à Solveig Kaufmann, c'est la référence à Lloyd Kaufmann de la Trauma Entertainment, avec voilà, avec des films de série B, série ultra Z, et avec une manière de réaliser, une manière d'être promu qui pourrait peut-être effectivement se rapprocher de ce punk là auquel on pense.
J'aurais plein de questions à te poser. Je trouvais passionnant ton intervention. En plus, je trouve que ça balise un chantier qui est quand même qui est quand même super intéressant sur la construction des catégories. Alors Rude Boy, tu l'as cité, je sais pas trop où tu le classes, ça moi je dirais docu-fiction, mais c'est un objet assez étrange. Et alors d'autant plus que faut se souvenir qu'il a été projeté, en tout cas c'était le cas à Bordeaux, en première partie de concert, notamment des Lords of the New Church. Donc c'était, il avait quasiment un rôle de médiation hein, sur ce que pouvait être le punk. Je trouvais ça très très intéressant. Et juste parce que je vais pas monopoliser la parole, dans les productions récentes, il y avait, j'arrive plus à me souvenir du titre exact, ce film américain, c'est Green Room où on voit les punks ouais. contre les skins quoi, littéralement. Ouais. Alors comme on a, certains types de skins, hein, certains, il y a une espèce de fiction qui est construite autour de la tournée d'un groupe punk qui se trouve comme ça projeté dans un univers assez incroyable, pas tant que ça, mais on l'avait évoqué sur une de nos journées d'études. Il y a Ciao Pantin pour la France avec Squad des Vilains, enfin toute la partie qui est tournée littéralement
au Gibus.
Ouais.
Comment ?
Avec le concert des vents.
Oui, complètement. Non, mais c'était pour alimenter un petit peu le. Et je termine là-dessus. Toutes les parties un petit peu hommage qu'on va trouver. Alors là, à mon avis, c'est plus générationnel. Par exemple, l'apparition des Ramones dans les Simpsons. Tu vois, dans les dessins animés ou une bande son aussi Buzzcocks dans le deuxième Shrek. Enfin bon, on a comme ça toute une partie bande son qui vient nourrir les films actuels et notamment les dessins animés. C'est assez marrant. Voilà. Donc c'était juste des remarques, je terminerai là-dessus, effectivement. C'est pour ça que je parlais de chantier en train d'être balisé, parce que voilà, il y a effectivement. Et puis bon, plus La Brune et Moi, dont on a parlé il n'y a pas longtemps.
Tous les films là dont vous m'avez parlé, Le Grand Soir et tout, effectivement, c'est.
Il y a quand même pas mal de codifications. Vas-y. Pour une fois, je parle dans le micro, je chante ça, c'est cool.
J'ai une très belle voix.
Il y a aussi dans Le Grand Soir, il y a pas mal de codifications quand il se présente comme le plus vieux punk d'Europe, avec cette image où il marche sur la route, il voit une affiche d'un chat, il tape deux, il fout un coup de pied, la bière le matin, qui est son petit café. Donc, où à un moment, il parle d'avenir pour son frère, parce que c'est la fuite des cerveaux, et bon, c'est Poulvord. Et il y a cet extrait du concert des Wampas, où justement, on voit du slam, parce qu'on parle du slam, et c'est aussi utilisé par les punks. Donc, ce film, alors, ça montre toujours une image un peu caricaturale du punk, parce que j'ai l'impression qu'il est difficile de faire un film sur le punk sans tomber dans des caricatures. Enfin, pour ma part, à part quand c'est des documentaires ou des. Mais un film sur le punk, comme il y a pu avoir un film sur Janis Joplin dans The Rose, où à un moment donné, voilà. Et je ne sais pas pourquoi l'image de mettre au cinéma le punk, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à la. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sérieux, mais à un moment donné, on n'arrive pas. C'est jamais vraiment. En fait, c'est toujours dans un côté un peu ironique ou. Je ne sais pas, donc c'était une réponse. Hein, peut-être. Ouais.
Genre en 84, je sais plus le nom de la réalisatrice, c'est Suburbia, qui est
Pen of Series,
qui fait une c'est des jeunes punk en fait, avec MFI, des Red Hot qui jouent dedans, et en fait ils habitent dans des baraques abandonnées, et on les compare entre guillemets, il y a une scène d'ouverture où c'est des chiens abandonnés, où il y a un bébé chien qui se fait massacrer au bord de l'autoroute, et en fait il y a une comparaison constante dans le film justement entre des jeunes égarés qui sont mineurs et justement des chiens abandonnés dans la rue, et t'as une bande de Clint Eastwood, Charles Bronson, qui veulent faire la justice et qui vont les embrouiller pour faire court. Ou sinon, t'as Repo Man avec d'Alex Cox, pareil, 84-85, où 84. Il fait jouer 84, où il y a t'as plein de musique dedans. Je crois que t'as Circle Jerk, si je dis pas trop de bêtises, t'as Suicide Dolls Tendencies, t'as plein de trucs, t'as même là un groupe qui joue dedans. C'est pas. Alors, j'ai plus les noms en tête là.
Il y a aussi un autre avec Josh Brolin. Wild. Ah oui, il y a.
Enfin, il y a plein de gens de Alex Cox qui viennent de tout ça. Ouais. Moi je pense qu'en tant que, enfin, entre que petit réalisateur, je te dirais que il y a le punk en tant qu'objet filmé, en tant que personne, déjà il marque les années 80. Tu prends Mad Max, qui est 79. Mais ça, c'est référence directe à Kubrick, ça. Tu prends Orange Mécanique, tout simplement. Regarde, les addicts sont tout pompés au niveau des fringues à Kubrick, par exemple, quoi. Et donc, tous les films années 80, moi qui matais beaucoup de séries Z, un peu comme monsieur le professeur, je veux dire, le sociologue, tu prends tous les films ont mis des punks dedans dans ces années-là parce que c'est une figure qui est facile, qui marque une époque, comme il disait, dans les t'as les bikers aussi dans les plein de films comme t'as les bikers même dans les retours de dans Supermarché là avec les zombies. Les Charles Bronson, t'en as plusieurs où t'as les punks dedans, parce que ça marque une époque.
Et les défenses, les punks.
Alors que. Et puis, c'est, esthétiquement, c'est facile. Enfin, je veux dire, ça marque tout de suite. Tu prends un mec, tu lui mets de la bière dans les cheveux et de la laque, et puis tu le rases la, et ça marque un truc.
Je caricature à mort.
Bien sûr. Non, je veux dire, en tant que personnage. Parce que dans un film, tu vas caractériser un personnage en fonction de ses vêtements. Pas comme dans la réalité. Donc, c'est un truc super facile qui est esthétique.
J'essaierai de répondre à tout ce que j'ai entendu. Alors, autant par rapport à la référence à l'épisode des Ramones qu'au Grand Soir, je trouve aussi que moi, en tant que cinéphile ou cinéman en voie de désintoxication, je peux pas m'empêcher d'y voir des références parce que, par exemple, dans le Grand Soir, le père des deux mecs, c'est Harisky, hein, c'est le compagnon de Fontaine, donc il y a déjà un degré de psychédélisme important. Je crois que l'épisode des Simpsons où il joue Joyeux anniversaire à Burns, ça reprend le début de Citizen Kane, qui reste en termes d'émotion un truc intéressant. Par rapport à Rude Boy, ben pour l'instant, forcément, le classement de ton corpus évolue en fonction de ce que tu fais. Et je suis parti très naïvement en me disant va y avoir les documentaires. Ensuite, va y avoir les films qui se passent dans le. C'est pour toi. Puis il va y avoir les films qui se passent dans un univers punk. Puis il va y avoir les films avec des punks. Sauf que là, t'arrives, tu sors Rude Boy, tu sors la grande escroquerie du rock'n'roll. Et tu te dis, qu'est-ce que j'en fais? Et donc pour l'instant, c'est pinned in progress, comme on dit. Et par rapport à ce que tu disais donc sur le concert là, des Lords of the New Church, ben, moi, il y a quand Old City Confidential est sorti, ils ont projeté le film à la Cigale. Et avec une présentation de Temple qui est venu, mais bon, comme public français comprend pas l'anglais, le mec il s'est cassé. Et juste après, concert de Bilko Johnson. Voilà. C'est-à-dire, ils ont pas déchiré l'écran, mais l'écran s'est levé. Et ensuite, on a eu un concert de rock'n'roll. Et c'était une manière de dire, bon, bah voilà, vous avez eu. Alors là, c'est plutôt du pub rock, mais ou du proto-punk. Mais il y a vraiment eu l'intérêt peut-être. Quand on fait des séances comme ça, c'est qu'effectivement, ou quand on fera la journée punk et cinéma, c'est de se dire effectivement là on part d'un matériau vivant, donc on se sent obligé soit de faire des concerts avant après pour montrer que on parle d'un truc qui vit, ou dans le cadre des films montrer les films pour dire voilà ce qui illustre ce dont on parle. Et il n'y a rien de plus fascinant d'abord de voir ces figures bouger, d'abord de les voir en photo à l'entrée du cinéma, ensuite on entre dans le cinéma, on les voit évoluer sur l'écran, et après ben, on a la troisième dimension avant la cinquième, etc., quand on a le concert. Merci à tous. Merci. Oh, bah.